RCF.
Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la chronique Europe de la Maison de l'Europe en Limousin, Centre Europe Direct. Et nous allons revenir sur la PFUE. C'est le petit acronyme pour Présidence française de l'Union européenne, même si l'on va voir tout de suite que c'est un petit peu plus précis que ça. Nous recevons aujourd'hui Sandrine Godin, secrétaire générale des Affaires européennes. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous.
Et merci donc d'avoir répondu à notre demande d'interview. Justement, donc la présidence de l'Union européenne, c'est pas tout à fait ça en fait, c'est la présidence du Conseil de l'Union européenne et vous allez nous expliquer en quoi cela consiste.
Bah écoutez, volontiers. Alors c'est assez à la fois simple et compliqué, donc je vais essayer plutôt de faire simple. Nous présidons effectivement pour 6 mois l'une des institutions de l'Union européenne qui s'appelle le Conseil des ministres, qui est l'institution qui, avec le Parlement européen, finalement décide des directives et des règlements européens qui sont en fait des lois européennes. Donc c'est l'organe législatif de l'Union européenne avec le Parlement européen en tandem. Et ce Conseil des ministres travaille sur la base de propositions qui sont faites par la Commission européenne et sur les questions de politique étrangère travaille en lien avec le Conseil européen qui, lui, réunit les chefs d'État et de gouvernement pour traiter des grandes questions, notamment des grandes questions géopolitiques. Donc le Conseil des ministres est une institution et chacun des ministres français va animer pendant 6 mois, va piloter les travaux dans 10 formations du Conseil. Alors les affaires économiques, les affaires de l'emploi, les affaires écologiques, les affaires de justice, les affaires de sécurité, de frontières. Bref, nous avons 10 formations du Conseil des ministres et qui sont pilotées par chacun des ministres français du gouvernement pour 6 mois.
6 mois de présidence, c'est finalement très court, surtout dans le contexte assez long des prises de décision européennes. On parle de programme commun du trio. La France inaugure un trio.
Comme vous l'avez dit, 6 mois, c'est très court. Et donc, nous devons, pendant ces 6 mois, faire avancer, faire progresser des négociations législatives très lourdes. Et nous avons sur la table aujourd'hui près de 250 textes en négociation. Donc tout ça pour vous indiquer assez vite et rapidement que nous n'aurons pas la possibilité de négocier et de parvenir au bout de ces 250 négociations. Donc il va nous falloir plusieurs mois et pour certaines parfois plusieurs années en raison de la complexité des sujets. Et donc pour ce faire, nous avons un mécanisme de trio, c'est-à-dire que 3 présidences successives se mettent d'accord pour assurer la continuité des travaux législatifs au sein du Conseil. C'est-à-dire que nous allons démarrer par exemple la révision du code frontières Schengen, puisque la Commission a fait des propositions en décembre sur cette question-là. Nous allons travailler pendant 6 mois sur ces textes. Nous espérons évidemment beaucoup de progrès sur ces questions-là, parce que ça fait partie des sujets prioritaires pour la France. Mais si nous n'y parvenons pas à nous mettre d'accord et au Conseil à 27 et avec le Parlement européen, il appartiendra à la présidence tchèque et éventuellement à la présidence suédoise de continuer le travail. Donc dans ce programme de trio que nous avons négocié en fin d'année dernière avec nos 2 partenaires suédois et tchèques, nous mettons, je dirais, sur le papier les dossiers pour lesquels nous estimons que cette continuité est nécessaire. Et donc cela marque en fait une forme de travail de priorisation, mais non seulement au niveau français, mais aussi au niveau de 3 États membres qui vont assurer ce travail. Ça donne une indication sur la direction que vont prendre les négociations pendant les 18 prochains mois en fait.
Alors, il faut préciser peut-être à l'attention de nos auditeurs qu'on ne choisit pas ses partenaires dans ce trio, hein, puisque le planning des présidences tournantes est établi des années à l'avance.
Exactement. Donc, on est dans un trio, dans un format imposé, si j'ose dire. Nous avons dans notre trio 2 partenaires, par exemple, qui tous les 2 ne sont pas membres de la zone euro, à la différence de la France, qui tous 2 ont des positionnements, par exemple, pas toujours en ligne dans un certain nombre de domaines avec les positions françaises. Je pense par exemple aux questions de politique commerciale ou aux questions justement de gestion des frontières. Mais c'est ce qui est intéressant C'est ce qui montre en fait que malgré sa diversité, le trio doit se mettre d'accord sur un plan de travail pour 18 mois. Parce que avoir la présidence du Conseil des ministres, c'est une responsabilité politique très forte, c'est faire fonctionner l'Union européenne. Et donc, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les affinités du trio, et notre trio est assez intéressant parce que, j'allais dire, nous avons voilà des positions parfois assez différentes, mais on a quand même réussi à se mettre d'accord sur un programme commun parce qu'il faut faire avancer le travail, il faut faire progresser ces 18 mois de travaux parce que nous intervenons en milieu du mandat des institutions européennes. Il y a eu des élections en 2019 au Parlement européen qui ont donné lieu à la mise en place d'une nouvelle commission avec de nouveaux membres pour le Conseil des ministres, pour le Parlement européen notamment. Et donc, nous sommes en milieu de mandat et il faut absolument que nous fassions le travail et qu'on assume cette responsabilité. Et donc, les trois présidences, les trois États du trio doivent se mettre d'accord. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Alors, c'est un document public hein, que vous pouvez lire sur le site de la présidence française de l'Union européenne. Il est à votre disposition, de même que le programme français et les priorités françaises pour la présidence, qui, lui, par définition, est un peu plus développé.
On en revient à la devise de l'Europe, unie dans la diversité, finalement.
Exactement.
Alors, le président de la République a annoncé en décembre dernier les priorités de la France lors de cette présidence. Alors, elles étaient très nombreuses. On va revenir, nous, rapidement, parce que malheureusement, on n'a pas assez de temps, sur juste quelques priorités qui avaient été annoncées par la France. Et donc, je voulais qu'on revienne sur la taxe carbone aux frontières. Dans quel contexte ça s'inscrit et est-ce qu'on peut espérer aboutir sur ce dossier?
Alors, effectivement, les priorités sont très nombreuses parce que, comme je vous le disais, il y a un très grand nombre de textes qui sont sur la table et on a à cœur de faire progresser le projet européen dans toutes ses dimensions, climatiques, écologiques, sociales, sécuritaires, sanitaires, suite à la crise, la mobilité des jeunes, l'emploi. C'est pour ça que les priorités, j'allais dire, qui sont énumérées dans notre programme, alors qu'il n'est pas si long que ça, hein, vous pouvez le lire là aussi sur le site de la présidence, il n'est pas exhaustif, mais en tout cas, il marque effectivement il y a quelques grands marqueurs. Et parmi ces marqueurs, il y a effectivement la taxe carbone aux frontières. Alors qu'est-ce que c'est? En un mot, c'est l'idée que nous nous sommes mis d'accord à 27, il y a quelques années, sur le fait de parvenir à la neutralité carbone dans l'Union européenne en 2050. Et donc, nous allons demander à tous les États membres, à tous les acteurs économiques notamment, et à tous, de faire un énorme effort en faveur de la transition climatique, de réduire la production de CO2. Et nous allons demander beaucoup d'efforts aux entreprises européennes qui sont actives sur le sol européen et qui produisent du CO2 et qui vont devoir faire des adaptations massives. Des investissements massifs pour arrêter de produire du carbone. Et le carbone va être, comme vous le savez, il est déjà taxé dans le cadre d'une réglementation qui instaure un marché du carbone. Et donc, ce que l'on veut faire avec cette taxe carbone aux frontières, c'est de se dire, c'est rétablir finalement une justice, rétablir des conditions de concurrence équitable entre les entreprises européennes qui doivent faire et vont devoir faire des efforts grandissants et très coûteux en matière de transition écologique pour éviter de produire du carbone, et les produits qui sont importés dans l'Union européenne, qui eux sont fabriqués dans des pays pour lesquels les standards en matière d'émissions de carbone sont nettement moins élevés, voire n'existent pas du tout. Et donc on va rétablir cette forme de condition de concurrence équitable en imposant une taxe lorsque les produits importés arriveront à la frontière et qui ont été produits en utilisant et en générant du carbone. On va donc leur imposer, comme on peut imposer un droit de douane, ça va être un droit de douane, une taxe carbone, de façon à ce que le produit importé ne soit pas arrive sur le marché européen avec un prix inférieur, il ne soit pas moins cher qu'un produit fabriqué dans l'Union européenne qui, lui, dans ses coûts, aura dû intégrer le prix de cette transition climatique. Donc ça rétablit l'équilibre entre les entreprises européennes et les entreprises des pays tiers qui importent dans l'Union européenne. Donc c'est un dispositif d'ajustement, comme on dit, d'ajustement carbone par un droit de douane ou une taxe. Et on doit le mettre en place le plus rapidement possible de façon à accompagner, je dirais, cette transition climatique. Alors on espère avoir des négociations fructueuses sur le sujet. C'est pas du tout évident à mettre en place, comme vous pouvez imaginer. cabinet. On vise en particulier certains domaines, d'abord certains domaines, par exemple la fabrication de l'acier, la fabrication du ciment, la fabrication des engrais qui nécessitent beaucoup de carbone et qui génèrent beaucoup d'importations dans le marché européen. Donc ça concerne des producteurs de plusieurs pays, notamment des États-Unis, de la Chine, de l'Ukraine, de la Russie, qui ne sont pas très, j'allais dire, emballés à l'idée de voir cette taxe imposée. Mais en tout cas, on est en pleine discussion sur les grands paramètres de cette taxe, la façon dont on va aussi faire de l'information pour, en direction de ces entreprises étrangères pour qu'elles puissent s'adapter à ce nouveau contexte. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que d'ores et déjà, les entreprises des pays tiers qui savent que dans quelques années, elles vont devoir payer cette taxe carbone, elles commencent elles-mêmes à adapter leur processus de production de façon à utiliser moins de carbone. Et donc, c'est très intéressant parce que la taxe, avant même qu'elle soit en place, parce qu'elle mettra quelques mois avant d'être négociée, c'est sans doute un objectif louable que de dire qu'en 6 mois, on fera bien progresser la négociation. Je ne suis pas certaine qu'on aura finalisé la négociation en 6 mois. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'existence même de ce projet et le démarrage des discussions européennes sur ce projet génèrent déjà des comportements très incitatifs sur les producteurs et les fabricants qui sont situés hors de l'Union européenne. Donc, c'est un sujet, d'abord une priorité, évidemment, de faire progresser au maximum cette négociation. Et c'est un sujet absolument majeur pour la compétitivité des entreprises européennes.
Et qui implique un temps de négociation, on l'imagine, particulièrement long.
Oui, parce que c'est technique, parce qu'on ne l'a jamais fait. On n'a jamais fait ce genre de calcul, parce qu'il faut, pour chaque produit importé, calculer le taux d'incorporation de carbone dans la fabrication. Voilà, on ne l'a jamais fait, donc c'est un peu technique. Il faut aussi s'assurer que cette nouvelle taxation, ce nouveau mécanisme, il est conforme aux règles de l'OMC. Il ne faut pas que ce soit considéré comme du protectionnisme, comme une entrave au commerce. Et donc, il faut aussi, mais normalement, le dispositif qui est sur la table en discussion est compatible avec les règles de l'OMC. Mais il faudra aussi que durant la négociation, nous ayons évidemment comme objectif de préserver cet outil comme un outil compatible avec les règles de l'OMC. Sinon, nos partenaires des pays tiers pourraient se plaindre devant l'OMC. Donc, il ne s'agit pas de protectionnisme. Il s'agit d'une application intelligente d'un marché carbone qui existe dans l'Union européenne et dont on veut voir, une mise en œuvre vis-à-vis de l'extérieur de façon à rétablir des conditions de concurrence équitable.
Merci beaucoup Sandrine Gaudin. Il y a évidemment trop de sujets à aborder pour parler de cette présidence française, mais nous avons encore quelques semaines et même quelques mois pour le faire. Merci beaucoup donc d'avoir répondu à nos questions. Et donc, on l'a compris, l'ensemble des documents consultables sont sur le site de la présidence française. Peut-être on peut donner l'adresse ?
Tout à fait, j'allais vous le signaler. Europe2022.fr. Donc Europe2022.fr, vous avez un site en 3 langues qui vous donne à la fois les informations de base sur le programme, nos priorités, le programme de trio, l'agenda des différentes réunions organisées en France et bien sûr les réunions qui sont organisées à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg. Et puis bien sûr, vous avez tous les jours des communiqués, des informations sur ce qui se passe, l'actualité en fait de la présidence, donc Europe2022.fr. Et je vous invite à le consulter. Je salue la très belle région Limousin, dans laquelle j'ai eu l'occasion de passer quelques temps lors d'un stage à la préfecture de Limoges quand j'étais à l'ENA, et j'en garde un très bon souvenir.
Merci.
Merci à vous. Au revoir, madame. Au revoir à tous.